Comme chaque mercredi, à 17h30, vous retrouvez le magazine Lilin Info, le magazine consacré à l'Université Lilin, sur Radio Campus 106,6 FM, www.campuslille.com. Nous avons le plaisir d'accueillir M. Dominique François, donc, qui est correspondant en développement durable à Polytech Lille. Bonjour M. François.
Bonjour.
On va donc parler de développement durable aujourd'hui, notamment de ce qui se fait, de ce qui se pratique au quotidien, on va dire, ou même en termes de projet, dans cette école qui s'appelle Polytech Lille.
Oui, tout à fait. Bon, on a essayé de mettre depuis un petit moment une cellule développement durable en place au sein de l'école, de façon à modifier un peu les habitudes des gens et à prendre part à ce projet de développement durable qu'on peut avoir tous chez soi ou en collectivité.
Alors, on parle beaucoup de développement durable, on va dire que c'est un peu la bouteille à l'encre. Qu'est-ce qui fait qu'une école s'investit dedans? Comment on mobilise des gens pour dire s'approprier aussi ces projets? Comment on travaille au quotidien et aussi à long terme?
Alors, une grande école d'ingénieurs, déjà, se doit d'avoir, dans certaines spécialités, c'est le cas sur Polytech, des cours, des enseignements de développement durable. Hein, on a 9 spécialités dans le bâtiment. Alors, avoir des cours, etc., c'est une chose qui est indispensable, c'est évident. Mais je crois qu'il est aussi important, et c'est aussi le souhait de la direction à l'époque, hein, de mobiliser les gens dans le bâtiment, aussi bien les enseignants que les personnels, de façon à avoir eux aussi des pratiques, je dirais, de développement durable qui soient logiques par rapport à l'éducation donnée, je dirais, aux élèves qui sont à l'école. Donc il y a eu une volonté de dire, bon, il faut qu'on fasse quelque chose, et une grande école se doit de participer, surtout une école d'ingénieurs, je dirais, les élèves ensuite sont appelés à avoir des responsabilités dans la vie, etc. Et s'ils ont reçu déjà des notions de développement durable, eux les entraîneront aussi dans l'industrie. Je crois que c'est un domaine très important.
Alors, c'est vrai que beaucoup de pays se penchent sur les économies à réaliser, notamment en termes d'utilisation des matières premières, en matière d'eau également. Il y avait un reportage excellent d'ailleurs hier soir sur le lobbying et sur les groupes d'intérêt par rapport à l'eau, c'est-à-dire d'un côté des entreprises capitalistes internationales et de l'autre des régies locales qui essaient de répondre à une demande du public. On se rend compte que quand les affaires sont traitées sur des périodes courtes, sur des contrats, les entreprises n'ont pas forcément intérêt à ce que les choses durent. Comment on perçoit ça en termes d'une école? Est-ce qu'il y a dans la formation les deux points de vue qui sont affrontés, voire confrontés?
Alors, je crois personnellement que, par exemple, au niveau de la consommation d'eau, des choses comme ça, je crois qu'il faut toujours se baser sur le long terme. Donc, à long terme, les petites actions que l'on peut avoir, je dirais, au niveau de l'éducation dans l'école elle-même et au niveau de ce que l'on pratique tous les jours, c'est des actions qui pourront effectivement se mener à long terme. Bon, alors maintenant, tout ce qui concerne le lobbying de l'eau, bon, effectivement, il y a toujours un marché. On dit maintenant, comme on dit souvent, on entend souvent, le développement durable est devenu un marché, si on peut dire. Oui, c'est un peu le cas, mais moi, je le prends toujours dans le sens du marché de la vie, quoi, si on peut dire. On partir plutôt là-dessus que de partir sur un marché où on pense plus au financement qu'autre chose, quoi. Donc, par exemple, l'eau, nous avons un département génie de l'eau sur l'école, hein, sur Polytech, qui étudie les nappes phréatiques, qui étudie un tas de choses comme ça. Et je crois que toutes ces choses qui sont faites pour étudier le sol, etc., ont, à un moment ou à un autre, un débouché sur le développement durable pour dire que l'eau, bon, on parle de l'or blanc, hein, bon, c'est pas pour rien, l'eau devient rare, devient chère, etc. Il faut pouvoir faire attention à ce qu'on fait avec. Donc je crois que les gens qui sont dans l'école, aussi, au niveau enseignement, aussi bien au niveau étudiant que le personnel, doivent être sensibles à ce problème de l'eau. Hein, et bon, penser lobbying, je crois qu'il faut dépasser ce système et penser vraiment à long terme, quoi.
Non, on peut imaginer qu'après des siècles de recherche, on soit capable de réaliser, de produire des choses qui soient non seulement durables, mais j'allais dire presque éternelles.
Éternel est un bien grand mot, me semble-t-il. Mais bon, il y a des choses qui sont effectivement durables comme maintenant, mais on découvre, je crois aussi maintenant, à l'heure actuelle, que ce que l'on produit, peut régulièrement être réutilisé, sans devoir vraiment systématiquement taper dans la matière première, dans la matière initiale. On voit bien comme maintenant, un exemple sur l'école, par exemple, on a mis en place le tri sélectif de façon à récupérer tout ce qui est flaconnage et les gobelets plastiques qui sont une plaie, on va dire, un peu partout. Maintenant, on a trouvé des sociétés qui sont capables de faire des choses avec des gobelets plastiques. On les reprend, on les stocke, on leur donne et ils font de la matière secondaire avec qui sera un complément. Donc on se rend compte maintenant qu'on peut récupérer des choses pour en faire de la matière peut-être pas tout à fait première quand même, mais surtout matière secondaire. On va prendre le flaconnage. Tout le monde connaît ce que l'on fait d'une bouteille d'eau ou d'une canette de boisson. Hein, c'est du recyclage qui est pur et dur, quoi. Donc je crois qu'il faut vraiment travailler dans ce sens-là, de façon à ce que les gens se rendent bien compte de ça. Nos matières premières vont s'épuiser un petit peu, hein, enfin un petit peu, même beaucoup, hein, à terme, elles vont s'épuiser. Donc il faut que l'on ait des solutions qui nous permettent de vivre normalement, comme on le vit comme maintenant, mais en consommant quand même beaucoup moins de matières premières, puisqu'on les aura peut-être plus.
Donc effectivement, recycler et aussi éviter que ces déchets ne s'éparpillent, comme on le voit avec ces oiseaux qui meurent ou ces animaux qui meurent simplement en vivant une vie naturelle. Ils récupèrent un peu tout ce qui est renvoyé dans l'eau, dans les océans. Et voilà, je veux dire, on se débarrasse facilement de nos déchets en servant des océans comme poubelles. Là aussi, il y a des choses en termes de pratique. Comment on peut se projeter dans l'avenir? Est-ce que vous pensez qu'il y a une régulation possible ou bien est-ce que chaque pays fait comme il le veut avec les moyens qu'il a et se débarrasse au moins coûtant de ses déchets?
Ben, je dirais l'espoir que l'on peut avoir, nous, en tant que, je dirais, personnes s'intéressant au développement durable, c'est que les pratiques, par exemple, comme celles qui sont mises en place à l'échelle de l'école, mais aussi à l'échelle de la région et à l'échelle nationale, les pratiques de tri sélectif de façon à récupérer correctement les déchets qui ne sont pas recyclables, tout ça évite que ça parte à la mer, quoi. Bon, alors, nous sommes un pays civilisé, etc., qui nous permet quand même, on a la possibilité de... Bon, malheureusement, il y a des pays, les pays émergents, des choses comme ça, qui n'ont pas encore la possibilité de... Bon, nous, on se rend compte, comme maintenant, que de jeter des choses, c'est une horreur. Bon, on sensibilise les gens, on sensibilise l'utilisateur, le consommateur, surtout à éviter de jeter, et surtout à jeter à bon escient, je dirais, des choses qui sont recyclables. Ce qui n'est pas recyclable. Mais à utiliser des produits qui sont recyclables, plutôt que de prendre une boîte en plastique, on prend une boîte en carton, par exemple, des choses comme ça. Mais... je crois que chez nous, comme maintenant, c'est notre rôle, nous, de grandes nations, etc., de montrer ce que l'on peut faire, d'essayer de le faire dans le meilleur des mondes, je dirais, et ensuite de montrer aux gens, aux pays émergents, etc., ce que l'on peut faire effectivement, et ce qu'on peut faire de ça pour éviter de effectivement, la mer, c'est notre poubelle, quoi, c'est la plus grande des poubelles, c'est un malheur, quoi, c'est vraiment un malheur, c'est quand même des organes de vie, c'est l'eau, la mer, la terre, tout ça, c'est la vie, c'est notre vie de tous les jours, c'est notre vie future, etc., et c'est vraiment à nous maintenant de montrer aux gens qu'on peut faire des choses, qu'on peut faire bien en mobilisant le comportement surtout, en faisant changer les gens, en leur disant bon ben si tu fais pas comme ça, ben ce sera mieux, hein, etc. Et puis pouvoir leur prouver et puis leur dire régulièrement quoi.
Alors, votre école Polytech Lille a une dimension internationale, nationale, et aussi, elle est implantée dans une région. Est-ce que le fait qu'elle soit dans le Nord-Pas-de-Calais lui donne une démarche particulière, et en quoi elle traite des problèmes aussi de la région Nord-Pas-de-Calais ?
Alors, actuellement, ce qui est fait, je dirais, au niveau développement durable de l'école, j'espère pouvoir faire des émules dans le réseau Polytech. Par exemple, l'école fait partie de l'université, puisque je travaille aussi en collaboration avec la cellule développement durable de l'université, forcément, de Lille, bien sûr. On se connaît très bien, etc. Je travaille, par exemple, la politique d'affichage qu'a développée, la campagne d'affichage qu'a développée l'université il y a peu de temps concernant les gestes, les bons gestes, on va dire. J'ai récupéré évidemment toute une information pour le mettre sur Polytech. Nous, on avait déjà fait quelque chose aussi, mais en supplément, j'ai mis ça. L'école, je dirais, déjà, si elle peut déjà intervenir... Bon, il y a des gens de la région. Évidemment, on a des gens de la région qui viennent beaucoup sur l'école parce que l'école est très liée à l'industrie. Donc, l'image qu'on aime bien montrer sur l'école, c'est que c'est une école d'ingénieurs qui pratique le tri. On est en train de mettre en place, là, incessamment sous peu, deux centres de tri dans ce qu'on appelle la rue des ingénieurs chez nous, qui vont être vraiment deux vitrines de tri sélectif très prépondérantes, quoi. Donc ça montrant aux gens, j'irai les gens qui viennent dans le bâtiment, parce qu'il y a énormément de personnes qui viennent dans le bâtiment, montrant ça, je crois qu'ils seront au courant du fait que ça existe sur l'école. Après, ça peut, les étudiants partant en stage dans l'industrie, dans l'entour, à la région, etc., seront aussi porteurs de cette nouvelle disant, chez nous, à l'école, on trie, voilà, il y a du tri. Ah bon, vous avez fait comment, etc. Et je crois que le dialogue initial est vraiment très important. Si on entend que ça existe, je crois qu'on saura qu'on peut faire des choses, et en prenant des renseignements auprès des gens compétents ou des choses comme ça. Voilà.
C'est vrai que les universités de la région ont reçu leur bilan carbone il n'y a pas très longtemps. Est-ce que Polytech est satisfait de ces résultats ?
Alors, je ne le suis pas trop pour l'instant. Bon, le fait est que toutes les données qui ont été récupérées sur l'école ont servi en bonne partie pour le bilan carbone aussi d'université, dû au fait qu'on a la chance à Polytech de représenter une mini-université, on va dire, entre guillemets, puisque c'est un bâtiment qui a toutes les structures que possède l'université. Des labos de recherche, des locaux étudiants, des locaux d'enseignement, quelquefois un bar, un bureau des élèves, des choses comme ça. Donc, il a été il était plus simple de récupérer des informations au niveau d'une école que de vraiment essayer de tout concentrer sur l'université. Donc ça donne une idée, je dirais, de ce qui s'est passé. Malheureusement, pour l'instant, je n'ai pas encore eu d'interprétation réelle du bilan carbone exclusivement de l'école. Ici, on est en train d'essayer de mettre en place, avec un club de l'école Biolitech, une participation des étudiants pour faire l'interprétation de ces données et de façon à ce que Polytech puisse avoir son bilan carbone. C'est aussi un souhait que je porte chèrement parce que j'ai envie de l'avoir, de façon à ce qu'on sache à quoi nous sert ce que l'on fait actuellement. Parce qu'il faut pouvoir évaluer les choses et montrer aux gens que, puisque vous avez accepté de jouer le jeu, voilà où on en est au niveau de notre bilan carbone. Donc là, pour l'instant, j'ai des données, mais elles ne sont pas encore interprétées. J'espère le faire assez rapidement.
Voilà, donc Polytech, c'est une école qui a plusieurs disciplines, on va dire. Est-ce que ces disciplines travaillent main dans la main à un certain moment, sur certains projets, lesquels ?
Oui, il y a beaucoup. Déjà, il y a tout ce qui correspond aux modules transversaux qui sont dans toutes les spécialités. Il y a un tas de modules transversaux. Et il y a des projets qui sont menés. Par exemple, bon, il y a des choses aussi qui sont internes à l'école, mais qui sont très importantes. Je veux dire, quelque chose qui vient d'être fait il n'y a pas très longtemps, c'est le bureau des élèves, par exemple, le BDE. Le BDE regroupe un certain nombre d'étudiants qui sont de toutes les spécialités de l'école. Hein. Ils sont de tous les horizons, etc. Et il y a beaucoup de choses qui se font ensemble. Il y a des départements mécaniques, la mécanique, qui peut travailler avec l'automatisme parce qu'ils ont besoin d'automatisme, etc., etc. Donc il y a de la transversalité entre les spécialités du bâtiment, donc ils se connaissent à peu près tous. Alors, évidemment, il y a des spécialités qui sont bien différentes. J'ai parlé de géotechnique, génie civil, par exemple, par rapport au département agroalimentaire. Bon, on ne voit pas trop, mais il y a toujours un point commun quelque part qui permet de se rencontrer sur un thème précis, quoi.
Donc on peut dire que votre école peut répondre à énormément de demandes, que ce soit des entreprises. Est-ce qu'éventuellement on peut associer aussi dans ces demandes des personnes morales et par exemple des villes, des communes de la région qui s'intéresseraient à peut-être des audits ou à des travaux particuliers ?
Bon, ça oui, je crois qu'il y a, de ce côté-là, il n'y a pas de souci, puisqu'il y a énormément de projets qui sont menés par les élèves dans l'école. Il y a énormément de projets aussi qui sont amenés de l'industrie. Les étudiants chez nous partent en projet à un moment ou à un autre de leur scolarité. Donc il y a toujours des demandes. Je crois que oui, bon, puis on est demandeur aussi. L'école est aussi demande aussi de ce genre de rapport avec l'industrie de locale, avec les villes, etc. etc. Je vais prendre un exemple. Je m'étais intéressé à un petit moment avec la région, quoi, la région de l'Avesnois, de façon à pouvoir replanter l'équivalent du papier que l'on consommait chez nous. Bon, c'est un projet que notre directeur portait aussi. Et bon, c'est pas tombé à l'eau, mais c'est pas facile à le mettre en place. On va y arriver à un moment ou à un autre. Donc voilà, par exemple, là, on va travailler directement avec les eaux et forêts, quoi, si on peut dire, de la région de l'Avesnois, pour voir comment on peut procéder à faire ce genre de choses. Donc je crois que oui, les villes sont toujours intéressées à ce qui se passe à l'école et sont partie prenante aussi.
Est-ce que dans le domaine du développement durable, vous avez beaucoup de doctorants ?
Sur l'école, je vais dire, je sais pas trop. Non, bon, faudrait se renseigner auprès des laboratoires de recherche ou des choses comme ça. Hein. Bon, je suppose qu'il y a des laboratoires de recherche qui s'occupent de ce genre de choses, de cette thématique. Bon, là, je vais pas donner de renseignements effectifs comme maintenant, ne pas dire de bêtises, je vais dire. Mais bon, ça se fait, c'est sûr que ça se fait, quoi.
Mais ça pourrait être des demandes particulières d'étudiants qui sont chez vous, qui pourraient vous demander d'accéder à tel type de recherche.
Je crois que ça pourrait se faire. Ça serait même, bon, je dirais même pour juste des projets, des choses comme ça, ils pourraient effectivement demander des choses auprès des enseignants ou des différentes spécialités de l'école, surtout pour des gens qui sont très liés. Ben, par exemple, je vais prendre l'agroalimentaire. Eux sont très liés à ce genre de problématiques. Bon, ils ont des cours de développement durable, etc. Et puis ils baignent dedans, quoi. Bon, c'est typiquement le département qui est là-dedans. Bon, la recherche là-dedans, il y en a, puisqu'on a un laboratoire probiogène qui est chez nous, là. Il y a de la recherche là-dedans aussi. Donc oui, je crois qu'il doit y avoir pas mal de débouchés, surtout que maintenant, c'est vrai, le développement durable, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment, enfin qui a démarré depuis un petit moment, mais qui en est vraiment en plein développement, quoi. On découvre des tas de choses, etc. Et je crois qu'il y a des gens qui s'intéressent à ça au niveau recherche effective, quoi.
Vous avez dans votre école beaucoup d'étudiants étrangers, enfin pas mal, hein, si on peut dire ça, souvent en partenariat avec des universités d'autres villes du monde. Justement, ces villes ou ces pays du monde ont des problématiques qui sont peut-être encore plus importantes que les nôtres. Je pense par exemple à la Chine, vous avez pas mal d'étudiants chinois. Est-ce que vous les sentez intéressés par ces problématiques et est-ce qu'ils viennent aussi chercher des solutions pour leur pays ?
Alors, je n'ai pas encore eu pour l'instant de réel contact avec étudiants chinois souhaitant, je dirais, avoir un peu plus de renseignements ou des choses comme ça. J'ai dans l'esprit, à un moment ou à un autre, de pouvoir effectivement rencontrer des gens comme ça et de leur demander quelles sont, par exemple, leurs pratiques. Hein. Est-ce que eux, des gens, ont déjà des pratiques plus avancées que les nôtres, ce qui est tout à fait concevable et possible, ou est-ce qu'ils voudraient bien prendre un peu modèle sur nous, ou nous prendre modèle sur eux. Bon, ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire, puisque il y a un petit club chez nous, là, donc qui pourrait permettre de les rencontrer et de voir un peu avec eux ce qu'on pourrait faire, est-ce qu'on pourrait travailler un peu ensemble, est-ce qu'on pourrait récupérer l'enseignement, est-ce qu'on pourrait s'aider les uns les autres, quoi, dans ce genre de domaine. Bon, ça, c'est pas fait pour l'instant, je l'ai pas encore fait parce qu'il y a pas mal de choses à côté quand même. Puis j'ai en plus mes fonctions initiales qui sont là, quoi. Donc, bon, mais j'espère pouvoir les rencontrer et pouvoir discuter un petit peu de ça avec. Mais j'ai déjà ici des gens qui s'intéressent à des projets. On a par exemple, il y a un concours actuellement, mettons campus au plan vert, quelque chose comme ça, là. Et puis, les étudiants sont venus me voir pour participer à ce genre de concours. C'est très bien. Ça veut dire que les élèves de l'école vont participer à un concours développement durable. On verra. On leur demande pas de gagner. Hein, c'est pas ça. Le principal, c'est de participer. L'important, c'est de participer. Je suis pas le premier à le dire, d'ailleurs. Et bon, je crois que ce sera vraiment intéressant de ce côté-là. Et vis-à-vis des gens... Bon, j'ai travaillé avec des étudiants espagnols, par exemple, qui sont venus chez nous et qui avaient une problématique de ce type-là, qui ont fait de la recherche de données pour le bilan carbone et qui avaient un peu de problématique comme ça. Et c'était vraiment très intéressant, quoi.
Voilà, donc, monsieur Dominique François, ces problématiques sont évidemment vitales, hein, pour notre société d'une manière générale. Évidemment, les grandes écoles se doivent d'y répondre et puis d'entraîner aussi dans leur sillage non seulement les écoles, mais toute la population via des relais. Quels pourraient être les meilleurs relais ?
Moi, je dirais le meilleur relais, comme nous, par exemple, ici, la MAN, c'est nos étudiants. Le meilleur relais que l'on ait, c'est vraiment eux. Eux vont partir, vont se retrouver dans l'industrie incessamment sous peu, vont se retrouver à des responsabilités, etc. Donc, moi, je crois que c'est le rôle des grandes écoles et puis l'éducation, de former ces gens à cette problématique de façon à ce qu'ils la transportent. Ils la transportent dans l'industrie, ils la transporteront chez eux déjà, dans leurs pratiques, etc. Le meilleur flambeau, la meilleure chose, je crois que c'est vraiment ça. Si eux ont pris conscience qu'il y avait quelque chose à faire, on leur montre qu'effectivement ça sert à quelque chose, même le peu qu'ils peuvent faire. Si tout le monde fait un petit peu, ben c'est une bonne chose à la fin. Donc si eux partent effectivement dans la vie active avec cette idée-là, et puis bon, déjà ils le feront chez eux, et ils partiront dans l'industrie avec vraiment cette idée-là. Je crois que le meilleur vecteur, c'est nos étudiants.
Voilà, et on sera certainement bien placé pour expliquer ce qu'on a mal fait et ce qu'ils pourraient mieux faire.
Tout à fait.
Merci monsieur François, bonne soirée.
Je vous en prie. Merci, bonne soirée.